France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Luba Jorgensen. J'ai lu On ne sait pas comment cela va finir, conversation sur l'Ukraine. Votre force avec Leonid Gershovitch, avec qui vous dialoguez dans ce livre, c'est vraiment votre mémoire. On entend bien que la Russie impérialiste que voudrait faire renaître son président est un leurre qu'il fait endurer à son peuple. Bien au contraire, l'Ukraine est un pays en devenir, prêt à se rattacher à l'Europe, qui sait se recréer et se défendre avec une volonté incroyable.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parler russe aujourd'hui, voilà en trois petits mots comment tenir ensemble les vastes questions et profondes qui agitent le court essai au programme de votre book club. En vérité, il s'agit d'un livre conversation entre Luba Jorgensen et Leonid Gershovitch, nés tous deux sous l'Empire soviétique, autrice, chercheuse, enseignante, traductrice exilée en France pour la première, musicien et écrivain vivant en Allemagne pour le second. Leur rapport à la langue russe est différent et il a été différemment bousculé après l'invasion russe en Ukraine de 2022. On ne sait pas comment cela finira, c'est le titre de leur livre et Luba Jorgensen est notre invitée pour en parler. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Nicole Vulser à l'éclair pour nous. Un aspect économique du monde des livres, elle évoque aujourd'hui les séances de signature et autres services après-vente des autoristes. Et enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous et aux stagiaires de 3e dans le Book Club. Bonjour Luba Jorgensen.
Bonjour.
On ne sait pas comment cela finira. Conversation sur l'Ukraine a paru aux éditions Verdier. Le petit livre est donc sous-titré Conversation sur l'Ukraine et vous y conversez avec Leonid Gershovitch. Ce sont trois conversations qui ont suivi l'invasion russe en Ukraine de 2022. Une première en juin 2023 à Berlin, une deuxième en décembre 2023 à Prague et une troisième en mars 2024 à Paris. Vous traduisez ce texte du russe vers le français et vous traduisez aussi les œuvres de Gershovitch vers le français. On a la sensation, en vous lisant, Luba Jorgensen, converser tous les deux, que ces trois conversations ne sont que la pointe, en réalité émergée, d'une grande et longue conversation que vous entretenez tous les deux.
Tout à fait. C'est une conversation qu'on mène depuis 25 ans à peu près, et même plus, même davantage. Et qui, donc, ce sont des condensés, des extraits. L'idée de ce livre qui est né après que Leonid Gershovitch a fait un voyage en Ukraine s'est imposée d'emblée comme une sorte d'invitation pour le lecteur à rester à nos côtés et presque à participer à cette conversation ou du moins à être là, à l'écouter. C'est aussi, on pense bien sûr au café d'Europe centrale, c'est aussi un genre littéraire qui est un petit peu comme le voyage, comme le récit de voyage, voilà, qui fait penser à l'Europe centrale et à ce rapport à la réalité qui se construit à travers le dialogue. En fait, l'idée, c'est que
voilà, on pense ensemble, on
élabore ensemble. On pense ensemble, on ne sait pas, on ne prétend pas connaître la vérité, on ne prétend pas la dire, mais peut-être que dans le dialogue, quelque chose surgit. Mmh. Et en fait, voilà, c'est l'idée de ce livre, c'est de mettre en avant justement l'importance de la conversation.
Oui, alors c'est la discussion. En vous écoutant, Luba Jorgensen, je pense à un texte que Delphine Horviller a fait paraître peu de temps après l'attaque du Hamas en octobre 2023, et où elle disait, et son titre était, c'était aussi une conversation. Il y avait aussi quelque chose de la conversation, et c'est comme si là, en vous écoutant, je me disais bien, face à toutes les logiques d'oppression, de guerre, de violence, et donc où la langue est comme plus du tout efficace ou efficace pour tuer, il y a quelque chose de la force intellectuelle, de la force créatrice, de la force intellectuelle qui tentait de reprendre la main par la conversation. Est-ce que ce serait une bonne façon de le formuler, Luba Jorgensen?
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est l'idée de redonner aux mots quelque chose de la vie qui perdent aussi par la force de la propagande. Léonide a été, effectivement, on travaille ensemble depuis 25 ans, enfin depuis presque 30 ans, je pense. Dans les deux sens, j'ai traduit 4 de ses livres en français. Lui, il a traduit 2 des miens vers le russe. Donc c'est aussi, ce sont des dialogues aussi qui se passent entre plusieurs langues. Et il a été, je pense, une des vraiment des premières personnes après mes enfants que j'ai appelé en apprenant l'invasion de l'Ukraine. Et j'avais absolument besoin d'en parler avec lui.
Vous lui avez dit quoi?
Je crois que j'étais...
Il était à Berlin, lui, hein?
Il était à ce moment-là, non, il était à Naples. Et moi, j'étais dans un état de sidération. Et c'est vrai que de mettre des mots sur... Ce qu'il m'a dit, ne vous inquiétez pas, leurs bombes sont rouillées, elles ne partiront pas. Oui. Leurs bombes nucléaires, s'entendez. Oui. Voilà, parce que, évidemment, à ce moment-là, le chantage au nucléaire était très très fort. Et donc, est parti de là, ce dialogue ininterrompu, en fait, mais que, dont on a saisi trois moments. Oui.
Alors, il faut dire qui sont les personnes qui dialoguent, parce que vous engagez, et l'un et l'autre, une grande intimité, à la fois sur votre parcours de vie, et puis on va le voir sur la manière dont ce parcours de vie induit un rapport à la langue russe. On commence par vous, Luba Jorgensen. Est-ce que vous voulez bien nous raconter tout simplement un peu de votre vie, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes née, à quel moment est-ce que vous avez quitté ce pays pour venir en France, qu'est-ce que ça a produit chez vous? Ce sont des choses qui, en filigrane, nourrissent toute la conversation, toute la réflexion qui parfois prend des atours philosophiques, très souvent géopolitiques, on l'entendra aussi historiques et linguistiques, mais qui partent à chaque fois, ça part de vous deux, quoi.
Eh bien, je suis née à Moscou en 1958 et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie, on va voir ça. Léonide est de Pétersbourg, de Leningrad, et ce n'est pas du tout... Ce n'est même pas la même langue exactement. Donc moi, je suis née dans une famille russophone depuis plusieurs générations, avec toujours cette sensation qu'il y a d'autres langues sous la langue que je parle, l'estonien, le yiddish. On ne parlait que russe dans ma famille, donc c'est la langue dans laquelle je me suis formée, je me suis construite, avec une histoire d'amour qui me liait au français assez rapidement. Voilà, et qui est devenue ma langue d'écriture une fois que je suis arrivée en France, assez vite, je suis passée au français. Ce qui est aussi une grande différence, quelque chose qui me différencie de Léonide, qui lui a continué à rester, à écrire en russe.
Est-ce que vous voulez bien préciser ces deux choses? D'où vous venait la sensation qu'il y avait sous le russe qui était parlé à la maison, plein de langues silencieuses?
Dans l'histoire des... Ça rejoint peut-être aussi la question de la mémoire. Dans l'histoire des juifs, il y a toujours des migrations, des changements de lieu, parfois de pays, changements de nom, changements de langue. Et c'est quelque chose qui nous fait signe, même si on le sait pas. Enfin, comme une sorte de soubassement, de source qui irrigue
la langue
qui est parlée.
En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on vous racontait, vous, lorsque vous étiez petite?
Non, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Il y avait peut-être 2-3 mots de yiddish, mais ma famille ne le parlait pas du tout. Et puis, c'est quelque chose qui m'est apparu, en fait, à partir du moment où je suis passée au français, et où le russe est devenu pour moi aussi une strate de ce socle linguistique sur lequel je vivais. Une fois qu'on a changé de langue, on peut tout à fait imaginer aller explorer dans l'histoire de sa famille la mémoire linguistique familiale, et découvrir qu'il y avait bien sûr en amont d'autres langues parlées par les ancêtres.
À partir de quand vous passez au français, Luba Jorgensen? Parce que vous dites que vous êtes née donc en 1958 à Moscou.
Oui, je suis arrivée en France en 1975. Je commençais à écrire et c'est en 1977, je me souviens très précisément du jour où j'ai décidé qu'il fallait écrire en français. J'étais à ce moment-là à Londres Et peut-être que ça m'a permis de voir à distance cette langue française qui allait désormais être la mienne.
Mais quand vous dites « j'ai décidé d'écrire en français », est-ce que, puisqu'il va tant être question de la langue russe dans notre conversation aujourd'hui et qu'il en est tant question dans votre conversation avec Léonid Gurevitch, à ce moment-là, vous quittez le russe ?
Mais pas tout à fait. Je crois que c'est précisément le fait d'avoir migré vers le français qui m'a en même temps incité à garder ma langue russe, puisque je me suis orientée à ce moment-là vers les études de littérature russe, que j'enseigne pas la langue mais la littérature russe, et que par la suite j'ai aussi décidé de traduire des œuvres russes en français. Et c'est comme ça que je suis arrivée d'ailleurs chez Léonide en 92, je crois. Pour la première fois.
Donc finalement, si on essayait de commencer à décrire, c'est aussi ce que vous faites dans cette grande conversation, votre rapport à la langue russe, on pourrait dire que le fait de choisir d'écrire en français à ce moment-là, donc en 1977 alors que vous êtes à Londres, ne vous fait pas quitter le russe, mais simplement comme vous décalez par rapport à la langue russe, vous diriez ça ? Choisir un autre lieu pour cette relation entre vous et le russe ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est une relation. Alors je l'ai. J'aurais du mal à la résumer parce que je l'ai longuement décrite dans Au lieu du péril, qui est un livre paru donc en 2014. Mais à ce moment-là, le russe devient une sorte de langue sous-jacente, de langue secrète, de langue avec laquelle le dialogue se poursuit, bien sûr. À travers les traductions, mais aussi à travers mes textes où le russe est là en filigrane, d'une manière invisible.
Reprenons le parcours de Léonid Gurevitch. Alors lui, il naît où et quand ? Vous avez dit Leningrad, pas tout à fait la même langue et pas tout à fait la même époque, Luba Jorgensen.
Alors Léonid Gurevitch, donc 10 ans de plus que moi, il est né en 48 et c'est une date qui n'est pas anodine parce qu'on est en pleine campagne antisémite stalinienne au moment où il naît, donc il a été beaucoup plus confronté très tôt à ce que c'est que d'être juif dans un environnement hostile. Et à Leningrad, qui est une... Alors, il aime bien en parler, il en parle dans ce livre. Leningrad, qui est pour lui une nécropole, parce que c'est une ville que Staline détestait et qui a vécu comme si elle s'était complètement figée, comme voilà, en préservant une culture qui ne s'inscrivait plus dans les logiques soviétiques. On cite, je crois, Mandelstam qui a dit: vivre à Pétersbourg, c'est comme dormir dans un cercueil. Et c'est ce qui a conditionné le rapport de Léonid Gurevitch à la langue. Alors lui, à la différence de ma famille, il est le premier véritable russophone de sa lignée, c'est-à-dire que sa mère avait encore, donc sa famille parlait en tout cas du côté maternel, tout le monde parlait le yiddish jusqu'à un certain moment, et sa mère n'est pas encore complètement à l'aise avec le russe. Donc il est le premier à s'approprier cette langue, à devenir écrivain dans cette langue, avec tout ce que ça lui renvoie aussi de et compte tenu justement de ce contexte que je viens d'évoquer.
C'est-à-dire des campagnes antisémites.
Des campagnes antisémites, avec l'idée aussi qu'il est illégitime, enfin qu'il est vu par les vrais russes, les vrais écrivains russes, comme illégitime. Dans cette langue.
Mais parce que nouvelle arrivée dans cette langue, ce serait ça son illégitimité ?
Non, parce que
juif.
Parce que juif. Et donc il y a pour lui un défi très très important, et le fait qu'il perçoive cette langue qui est un petit peu différente. On parle, il y a une manière différente de parler à Leningrad, le fait qu'il la perçoive comme une sorte de langue morte, finalement, lui permet de la garder dans l'émigration. Parce que moi, je suis passée au français parce que je voulais écrire dans la langue que j'entends, qui est une langue vivante. Je voulais pouvoir commander mon café dans la langue dans laquelle j'écris. Mmh. Et Léonide, c'est l'inverse. Il avait besoin d'une sorte de, d'une langue qui est restée sous cloche. Et donc, de creuser son terrier, en fait, sa langue, c'est son terrier, pour faire allusion à Kafka. Et donc, pour lui, ça posait pas du tout de problème d'écrire, de continuer d'écrire en russe. Il dit souvent que les émigrer, c'est passer du discours direct au discours indirect. Et ce qui fait qu'il a écrit certains de ses livres entièrement en discours indirect, sans aucun dialogue. Mais c'est une façon aussi de transformer son exil et son rapport à la langue russe en un procédé et en une
quelque chose de dynamique.
Quelque chose de dynamique, ouais. Enfin, en faire un objet littéraire tout à fait singulier.
Et tout à fait pensé, parce que il y a quelque chose aussi que qui saute aux yeux à vous lire tous les deux converser. Donc, il faut vraiment qu'on s'imagine sur le banc en face, sur le café, à tendre l'oreille. Votre conversation, elle est dense, elle est riche, elle est nourrie de beaucoup de références littéraires, mais aussi historiques, politiques. Et vous pensez tous les deux, vous pensez activement votre rapport à la langue. Or, c'est pas tous les quatre matins qu'on s'amuse, chacun d'entre nous, à se demander, en France par exemple, tiens, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec la langue que je parle tous les jours ? J'espère que d'aucuns le font souvent. Mais quand même, là, on vous sent très à l'œuvre sur cette question-là. Comment le justifiez-vous, Luba Jorgensen ?
Ben, je pense que c'est notre histoire, c'est ce que je viens de raconter. C'est le rapport à la traduction aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur la langue.
Léonide, c'est aussi votre terrain de discussion.
Mais absolument, c'est notre vie en réalité. Et Léonide il dit que la langue, c'est ce qu'il a de plus précieux à part sa famille. Ouais. Et moi, je peux dire la même chose. C'est-à-dire que c'est notre maison. Notre maison, bon, d'exilés peut-être, mais d'ailleurs Brodsky disait, Nabokov, mais Brodsky a dit plus ou moins la même chose, Nabokov disait ma seule patrie c'est la langue russe, tant qu'il écrivait, qu'il a continué à écrire en russe. Donc il y a toutes ces questions aussi de nos expériences respectives qui ne sont pas les mêmes. Léonide a du mal à comprendre qu'on puisse passer à une autre langue. Moi, je peux comprendre son choix, mais je suis admirative de la façon dont il travaille une langue dans laquelle il ne vit pas depuis 50 ans.
Puisqu'il vit en Allemagne.
Donc, on cherche aussi à comprendre les trajectoires l'un de l'autre. Et puis, Léonide ne parle pas français. Donc, lorsque je le traduis, il me donne toute la liberté, parce que ces livres sont parfois difficiles, en ce sens que si on les traduisait vraiment littéralement, le lecteur français plein de choses pourraient lui échapper. Donc, avec l'aval et même l'encouragement de Léonide, j'adapte beaucoup de choses plutôt que de les traduire directement. Mais ensuite, je lui retraduis en vers le russe pour qu'il comprenne ce que j'ai fait de son texte. Et lorsqu'il a travaillé sur mes livres à moi, moi je faisais un premier jet en russe et lui, il retravaillait ce premier jet.
C'est votre atelier de réflexion,
absolument,
quoi, sur la vie,
absolument,
sur le monde.
Absolument.
Ouais. Atelier qui se trouve percuté par l'actualité en 2022 et l'invasion russe en Ukraine, une guerre qui a commencé en 2014, comme vous le rappelez, et l'un et l'autre dans ce petit essai paru chez Verdier. Si l'on essaye, Luba Jorgensen, de dire en quelques mots comment votre rapport à la langue russe s'est trouvé modifié par cette invasion russe en Ukraine, on dirait quoi ?
Moi, j'ai vécu cette invasion d'abord comme une sidération absolue. Ce qui, je me suis dit, mais heureusement que je n'écris pas en russe. En fait, ça m'a sauvé quelque part.
Mais c'était quand vous dites ça, vous dites quoi? Vous dites parce que j'aurais eu honte d'écrire en
russe? Non, parce que je ne sais pas ce qui se serait passé, en fait. En ce sens que j'ai senti que ma langue d'écriture a été modifiée par cette invasion. Parce que dans...
En français,
parce que on a plusieurs langues dans la langue dans laquelle on écrit. Et sans doute, je n'écris pas dans la même langue aujourd'hui qu'avant. Et je le sais parce que j'étais sur un roman que je suis en train de terminer, et c'est pas la même personne qui le termine, et c'est pas la même langue. Mon écriture a été modifiée. Alors, bon, c'est difficile de dire ce qui est dû à la guerre. En fait, c'est dû au bouleversement que j'ai éprouvé alors. Non, il n'est pas question de honte, mais il m'est plus facile de vivre sans... Bon, déjà parce que, je dirais, on ne peut plus publier en Russie. Hein, il y a déjà ce problème-là. J'ai l'impression de retrouver la situation qui m'a fait changer de langue. Autrement dit, ce qui a motivé mon choix du français, c'est bien sûr l'envie d'écrire dans une langue vivante, mais c'est aussi l'impossibilité d'être confiné dans un monde culturel de l'immigration, avec des maisons d'édition de l'immigration, etc. On est aujourd'hui dans une situation comparable, même si elle est certainement différente avec les nouvelles techniques. Et je n'ai pas à me poser toutes ces questions, donc je me suis réjouie de ne pas écrire en russe. La question est très très complexe.
Et alors, comment est-ce qu'elle a été bouleversée, ce rapport que vous décriviez, très différent pour Léonid Guirchevitch, qui a continué à écrire en russe après avoir quitté son pays, mais surtout qui a, on l'entendait dans votre description, Luba Jorgensen, considérait la langue russe comme son terrier, comme son territoire, comme sa maison, lui vivant loin de la Russie depuis des décennies. Comment ça s'est trouvé bousculé par l'invasion russe en Ukraine?
Léonid, en fait, a toujours... s'est toujours protégé des langues étrangères. À la différence de moi qui...
Les avait plutôt accueillis.
Oui, qui les est plutôt accueillis. Et lui, parmi tous les bouleversements qui a provoqué cette guerre, il y a celui de voir le russe complètement banni de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est aussi un peu sa patrie. Sa famille vient de Kharkiv. Et de constater que maintenant, le russe, cette langue qu'il habite, est un objet de haine pour les Ukrainiens, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour lui. Et en plus, et comme c'est la langue dans laquelle il a tout donné, il pense aussi que les jeunes russophones, les russophones, et en particulier les jeunes, qui abandonnent le russe, leur langue. Voilà, il comprend pas comment on peut abandonner sa langue et se mettre à apprendre l'ukrainien, à écrire en ukrainien, à parler en ukrainien, alors qu'on a été russophone à la base. Ça, c'est quelque chose qui pour lui est un déchirement absolu.
Mais que ce soit un déchirement, c'est une chose, mais qu'ils ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'on comprend aisément. On comprend pourquoi des jeunes ukrainiennes et ukrainiens, pour des questions même symboliques, vont dire « bon, bah voilà, politiquement, c'est comme ça qu'on va défendre notre position ». Lui, il le comprend même pas à cet étage-là.
Non, mais intellectuellement, il le comprend, mais il ne le comprend pas profondément,
du ventre.
Et puis, il refuse absolument, alors ça, c'est un de ses paradoxes, hein. Il dit toujours qu'il n'est pas une contradiction.
Il a dit, voilà. Il assume totalement.
Un de ses paradoxes, c'est qu'il, alors que on parle beaucoup politique ensemble, et que ces conversations, évidemment, et que la langue a une dimension politique très importante, mais il refuse absolument qu'une situation politique lui fasse changer quoi que ce soit dans son univers linguistique et mentale. Voilà.
Et en même temps, n'est-ce pas lui qui, au cours de votre conversation, Luba Jorgensen, atteste bien que les situations géopolitiques bâtissent les identités, y compris les plus intimes. C'est-à-dire qu'on peut vouloir se protéger de la manière dont le monde va. La manière dont ce monde va participe de nous sculpter, y compris très intimement.
Il l'admet. Oui, il l'admet, mais tout en résistant profondément à... Après, c'est, cette conversation est aussi une conversation entre deux individus, dont aucun ne prétend à une quelconque universalité. Et Léonide le dit très souvent, je ne peux parler que de moi, donc voilà, je ne m'engage pas à... Ce n'est pas une parole qui se veut...
Générale
ou édifiante, il ne parle que de lui.
Et c'est voilà. Beau, et c'est pour ça que c'est intéressant, bien sûr.
Et bien sûr, ces positions individuelles aussi cristallisent énormément de questions qu'on se pose tous.
D'autant que ces questions, je le disais, sont augmentées de toute l'épaisseur de vos mémoires individuelles, mais aussi des mémoires collectives que vous portez l'un et l'autre. Et je dois le dire quand même, de votre érudition historique à l'un et à l'autre. C'est aussi ce qu'a soulevé Joël, auditeur du Book Club. Il témoigne de sa lecture.
Bonjour le Book Club. Bonjour Luba Jorgensen. J'ai lu « On ne sait pas comment cela va finir », Conversation sur l'Ukraine, paru aux éditions Verdier. Votre force avec Léonide Guirchovitch, avec qui vous dialoguez dans ce livre, c'est vraiment votre mémoire. C'est comme si on vous suivait dans toutes vos histoires. Vous nous faites accéder à un tissage à travers vos échanges. Vous portez ces pays comme si vous y viviez. On traverse autant la Russie et l'Ukraine et la complexité de cette guerre. Merci.
Merci à vous, Joël, pour ce témoignage de lecture. En effet, je disais tout à l'heure, moi, j'avais en vous lisant l'image comme ça d'un homme et d'une femme sur un banc ou dans un café, comme vous le disiez, Luba Jorgensen, et je me disais, mais Et en même temps, je vous imaginais composé comme ça de plein de strates d'histoire et d'une certaine érudition de cette histoire. À quel point est-ce que vous n'allez pas sans cela? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout le monde ne se promène pas avec autant d'épaisseur historique, Luba Jorgensen.
Vous faites penser aux images de Proust. C'est dans Le Temps retrouvé.
Dans le dernier.
Ouais, ces personnages qui sont sur des échasses.
Des échasses, ouais, c'est la toute fin.
Voilà, ben nos échasses commencent à être longues. Et effectivement, quand je relis ces passages de Proust, je me vois très très bien avec ces échasses.
Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas aujourd'hui penser la manière dont, par exemple, l'invasion russe en Ukraine en 2022 bouleverse votre rapport à vous et à Léonide Guirchovitch, sans penser l'histoire des Juifs ukrainiens et le massacre de Babi Yar, sans penser l'histoire de l'Empire soviétique. On peut pas faire ça, c'est-à-dire on peut pas faire l'économie de cette complexité.
En fait, ce livre aurait pu faire plusieurs volumes.
Ouais.
Donc, on s'est limité à 3 conversations. On vous a épargné toute l'épaisseur de cette histoire, qui n'est pas seulement juive d'ailleurs, mais qui est aussi l'histoire des empires. Mais ça fait longtemps que nous en parlons entre nous. On ne peut pas penser l'histoire d'aujourd'hui sans penser que l'empire russe ne s'est pas décomposé comme les autres empires à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, ça nous ramène déjà un siècle en arrière. Et puis, sans penser peut-être aussi la condition des Juifs dans l'Empire russe.
Qui est très présente dans votre conversation.
Oui, parce qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de cette mémoire-là. Parce que sinon, on ne comprend pas aussi pourquoi la Révolution. On ne comprend pas l'engagement d'une partie des Juifs de cet empire dans la construction de l'Union soviétique. On ne comprend pas le découpage territorial, Ukraine, Russie, Bélarus, voilà. Donc, c'est vrai que dès qu'on...
Tire sur un fil, il y a toute l'immense pelote historique qui vient. Il y a une comparaison qui est faite et qui, en tout cas, pour probablement le trop peu de connaissances que j'ai sur cette question-là, moi, m'a interpellée, c'est la comparaison entre le russe et le yiddish. À un moment donné de votre conversation, Léonide Guirchovitch dit finalement qu'on peut comparer le recul du russe sur le territoire ukrainien aujourd'hui de la manière, vous me dites si je suis suffisamment précise, hein, de la manière dont s'est étiolée petit à petit la langue yiddish et a plus ou moins disparu. C'est une comparaison qui est étonnante pour moi. Est-ce que vous pouvez l'étayer, Luba Jorgensen?
Alors, je crois que si ma mémoire est bonne, parce qu'on revient sur les mêmes questions à plusieurs reprises, hein, c'est un dialogue qui n'est pas linéaire, je crois qu'on a évoqué aussi la question du yiddish par rapport à la contrainte linguistique qu'un État naissant peut imposer. Et on a fait une comparaison avec Israël.
Qui disait « juif parlait hébreu ».
Absolument, où le yiddish était...
plus que déprécié.
Oui, absolument, presque interdit dans les lieux publics. Et c'est comme ça que finalement l'hébreu est devenu aussi une langue culturelle, littéraire, etc. Donc, je suis plutôt d'avis, mais encore une fois, il m'est facile d'imaginer qu'on puisse changer de langue. Mm-hmm. Et je me dis, oui, pourquoi pas l'ukrainien? Et l'ukrainien va se développer, il va y avoir une littérature de plus en plus riche. Ce qui va enrichir l'ukrainien, ce sont aussi les traductions vers l'ukrainien, parce que beaucoup de textes passaient par le russe avant et maintenant, qui maintenant seront traduits en ukrainien. On sait que c'est la traduction, enfin que la traduction enrichit
les langues.
Oui, tout à fait. Je peux voir ça comme cette comparaison était là aussi pour dire mais c'est peut-être pas une tragédie si le russe n'est plus parlé en Ukraine.
Oui, d'ailleurs, vous dites aussi, je crois que c'est plutôt vous, Luba Jorgensen, qui réfléchissez à tous ces moments de conflit extrêmes et tristes et terribles, d'où naissent de la créativité, de la grande littérature, de la vitalité dans les langues. Donc c'est à la fois terrible à dire et en même temps, vous en faites le constat, Luba Jorgensen.
Oui, c'est dur aussi de constater que les grandes cultures sont souvent porteuses de très grandes violences. Et on discute aussi de cette violence de la culture, des combats pour l'hégémonie culturelle, qui peuvent être tout à fait sanglants. J'ai envie de penser que... Mais c'est peut-être... on a appelé le livre, on ne sait pas comment cela finira, mais on a envie parfois de se dire qu'il en sortira quelque chose, au moins pour l'Ukraine, peut-être.
On va continuer d'évoquer ce dialogue que vous entretenez avec Leonid Gershovitch, Luba Jorgensen, juste après ce morceau d'un rappeur russe qui s'appelle Oxymiron et qui, dès 2022, a pris position publiquement contre Vladimir Poutine et notamment l'invasion russe en Ukraine. Ce rappeur Oxymiron est originaire de Saint-Pétersbourg, comme Leonid Gershovitch, mais il est diplômé d'Oxford, il a grandi en Angleterre et dans cette chanson de 2022, il dit, entre autres, selon une traduction très approximative, « J'ai tué l'Empire en moi, le propriétaire devient violent, la guerre est proche, et il danse le cancan.
Сто чертели сверх идей. Говорят, начни с себя. Я убил в себе империю. Хозяин багровеет, нас не выселить никак. На нашем флаге белый снег и синяя река. Эстрада больна, рядом война. Пляшут канкан за говна пирога. Вам баблгам, я назад в андеграунд. По соловкам колокола. Где мой дом, где мой старый дом? Колдуном проклят старый дом. Ходит ходуном, под горой икает старый гном. Старым кадыком нас пугает ядерным грибом. Нах стариков, что лакает кровь чужих сынов. Черт, старый дом перезаберем.
Ой, да заберите дом, ой, да поселитесь в нем. Ой, да подавитесь в нем, а мы перезаберем. Ой, да заберите дом, ой, да поселитесь.
Леденец от Вилли Вонка Кровавой карамелькою в слезе у бинго-бонга А нам головоломка Что на помойку, а что в котомку А хули культура значит пересборка кубика Рубика шар крутится, крутится, канут трюфели Суд не будешь дыркой от бублика Человечьи судьбы в дыму, вот и капельки в бульбике Жены публики честно берут на патриках туфельки
И бизнес as usual, дресс-код casual, загар южный, эпиляция в зоне бикини, чистка в зоне оккупации, но только не отмыться в море, сколько ни купаться им. Фанаты не забывают о трубадуре, передаю привет из Скай-прокуратуре. Воздушный поцелуй красивым кисом на обводный, Ингрия будет свободной.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un morceau du rapport Oxymiron. C'est intéressant d'ailleurs parce que pendant tout un temps, disons que Vladimir Poutine a regardé avec un peu d'intérêt et de curiosité la musique rap avant de se retourner contre cette musique-là et en interdire et en surveiller de très près la production. Toujours intéressant parce que la musique rap fait un usage de l'argot créatif et fait entrer l'argot, même parfois l'insulte, dans son écriture. Et vous avez tout un passage, Luba Jorgensen, dans cette grande conversation sur l'Ukraine. On ne sait pas comment cela finira avec Léonid Gurchevitch, où on l'a entendu, la question de la langue russe est centrale. Vous dites, si il y a 25 ans, on avait tendu l'oreille au parler de truand, à l'argot russe utilisé par Vladimir Poutine, on aurait vu venir plus de choses. Qu'est-ce que vous dites par là?
Je dis par là que c'est une... que c'est une génération de truands, que c'est une génération politique de, qui utilise des méthodes mafieuses. Et que
ça sent dans le langage qu'ils emploient.
Ça se sent dans le langage qu'ils emploient. Ce langage qui s'est diffusé vraiment dans la culture et dans la vie politique après avoir été à l'époque soviétique confiné dans les milieux justement criminels, mais qui s'est diffusé aussi à partir de l'ouverture des camps. Donc c'est toute une sous-culture en fait qui a été qui a proliféré à partir de cet empire concentrationnaire qui était au cœur de l'Union soviétique et qui paradoxalement voilà après la alors il y aura aujourd'hui sans doute de nouvelles formes de ce langage mais qui après la disparition des camps à la fin des années 50 c'est progressivement infiltré dans la société. Et voilà, et Poutine...
Mais avec elle une violence, c'est-à-dire que dans le russe parlé par Poutine, on aurait dû entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu ?
On l'a peut-être entendu, mais pas assez. Pas assez. Si, on l'a entendu, on a reproduit certaines de ces expressions, comme « on va les buter dans les chiottes » ou « il y avait d'autres perles de ce genre ». Mais je pense qu'on n'y a pas suffisamment prêté attention. Mmh. C'était une carte d'identité.
C'est aussi ça que raconte, entre autres choses, cette conversation avec Léonid Gurchevitch, c'est qu'il faut prêter attention à la langue qui est parlée. Alors certes, on l'a entendu dans vos parcours individuels et avec toute l'histoire que draine ce rapport à la langue russe, mais aussi la langue russe dans l'espace public et la langue russe aussi, par exemple, il y a des passages très intéressants sur la langue que vous pouvez parler dans des taxis, la langue que vous prenez soin de parler ou de ne pas parler lorsque vous arrivez en France. Évidemment, toute la question de la langue russe depuis l'invasion en Ukraine, mais encore les mots russes ou Russie dans l'espace public, tout ça, ce sont des choses auxquelles vous êtes très attentive, Luba Jorgensen, ça nous dit des choses.
Ce sont des symptômes, parce qu'au début de l'ère poutinienne, quand même, beaucoup de Russes, mais aussi d'Occidentaux, étaient prêts à croire à l'ouverture, à un rapprochement avec l'Europe, etc. Alors qu'en fait, très très vite, on a eu des signaux, comme par exemple le rétablissement de l'hymne stalinien. Et Léonid, qui est un musicien, est extrêmement attentif aussi à ce genre de choses. Puis des petits signes, dont par exemple... l'engouement pour certaines chansons soviétiques. Donc il y avait en fait des signes qui très vite et il fallait les guetter à travers la langue la musique, la chanson, qui indiquait déjà un tournant vers, vers un état, enfin, vers le verrouillage politique de plus en plus, rude. Voilà, j'ai perdu le fil.
Alors, il y a quelque chose qui arrive comme notion dans cette conversation, c'est l'idée de la frontière fantôme, puisqu'il est beaucoup question, évidemment, on l'a entendu, de géographie, sur toute cette conversation autour de la langue. On va écouter la voix de Béatrice von Hirschhausen. Elle était au micro de France Culture dans l'émission Sans oser le demander en 2023, et elle déplie un petit peu cette notion de frontière fantôme.
Ces traces qu'on voit apparaître sur les cartes, ce sont véritablement des fantômes. Ce sont des fantômes au sens où ils apparaissent et ils disparaissent. Et ce sont des fantômes aussi dans la mesure où ils donnent à voir, à un moment donné sur une carte, la réalité, une situation, un débat, une position. Alors, un fantôme, on ne sait jamais très bien ce que c'est. Un fantôme, c'est à la fois quelque chose qui vient du passé, un corps, quelque chose qui vient du passé et qui a une réalité, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose qui est simplement dans notre imaginaire. Et donc, la métaphore du fantôme, pour parler des frontières, c'est d'essayer justement d'activer cette ambivalence. Cette ambivalence qu'on trouve, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans l'espace et entre les sociétés, et d'essayer de réfléchir comment ça marche. Et le propre des fantômes, c'est qu'ils apparaissent, mais aussi qu'ils disparaissent. Donc c'est quelque chose qui apparaît sur des cartes, qui peut aussi apparaître dans des paysages. Par exemple, on sent tout d'un coup qu'on change de paysage. On va passer par exemple d'un espace marqué par l'architecture baroque, par exemple, à quelque chose qui est plus d'une autre nature. Donc on peut quelquefois la sentir. Dans la métaphore, il y a des échos d'une certaine manière, hein. Il y a un écho à l'idée de douleur fantôme aussi. C'est la douleur que ressent quelqu'un qui a été amputé d'un membre et qui sent encore une douleur dans ce membre disparu.
C'est prodigieux et c'est intéressant comment la pensée géopolitique, en allant du côté quasi poétique et métaphorique, produit une pensée d'une très grande finesse. Pourquoi est-ce qu'il y a des frontières et des douleurs fantômes dans votre rapport à la langue russe, Luba Jorgensen, et dans le rapport qu'entretient Léonid Gurchevitch à la langue russe ?
Merci beaucoup d'avoir cité ce passage. J'apprécie énormément le travail de cette chercheuse qui me parle effectivement. Eh bien, parce que justement, ces frontières fantômes, on pourrait dire que le livre, je pensais même l'avoir cité peut-être.
Ici, dans le livre ? Ah, ouais. Bien sûr. Ah oui, ah, oui, n'y est pas allé par hasard, sauf par Cyril, ouais, qui a préparé l'émission. Ah, oui. La notion nous a été soufflée par vous.
Parce que tous ces territoires, d'abord parce que cette guerre est une guerre autour des frontières fantômes, puisqu'il s'agit pour la Russie de reconquérir un territoire qui était le sien, c'est-à-dire de nier l'existence de la frontière actuelle. Et nous avons effectivement, bon, vous allez me dire que là encore que nos échasses se remettent en marche, mais c'est quand même aussi une réminiscence d'une situation qui se produit pendant la Seconde Guerre mondiale, où les frontières de la Pologne sont niées par l'Union soviétique qui envahit. Donc ce qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale. Les frontières ont une existence fragile. Et j'ai dit quelque part, les frontières sont des animaux nocturnes. Il faudrait toujours veiller, parce que dès qu'on a le dos tourné,
elles bougent.
Et
ce faisant, elle bouge aussi la langue, pour en revenir à ce sujet qui nous anime.
Absolument, puisque dans les empires, justement, on peut changer d'identité, de pays, sans bouger de son village, plusieurs fois dans une vie, et être habité par plusieurs langues. Et au fond, ce qui passe en filigrane dans ce texte, c'est aussi tous ces plurilinguismes qui entourent nos territoires et notre histoire. Et peut-être que le monolinguisme assumé de Léonide, qui n'en est pas un non plus, parce que ses livres sont traversés par tellement de langues différentes en langue russe, et même des langues au sens propre, hein, de l'ukrainien. J'ai traduit un de ses livres où il y avait de l'ukrainien. Mais cette volonté de s'accrocher à une seule langue est peut-être aussi une façon de faire tenir quelque part ces frontières
fantômes. Si mouvantes par ailleurs.
Oui. Mmh.
Vous évoquez l'un et l'autre, les contes d'Odessa, de Babel, Léonid Gurchevitch et vous, Luba Jurgensen. On va terminer cette conversation en écoutant un extrait et peut-être nous dire pourquoi est-ce que Odessa, dans la grande géographie brassée par votre conversation, est un point tout singulier.
Tante Pessia, dit Benia à la petite vieille échevelée qui se roulait par terre. Si vous avez besoin de ma vie, prenez-la. Elle est à vous. Mais tout le monde peut se tromper, même le bon Dieu. Une énorme erreur a été commise, tante Pessia. Mais n'était-ce pas une erreur de la part du bon Dieu d'établir les Juifs en Russie pour qu'ils y soient tourmentés comme en enfer ? Qui aurait-il eu de mal à ce que les Juifs vivent en Suisse, où ils auraient été entourés par des lacs de tout premier ordre, l'air de la montagne, et rien que des Français? Tout le monde peut se tromper, même le bon Dieu. Écoutez-moi de toutes vos oreilles, tante Pessia. Vous avez 5000 roubles en main, et vous recevrez 50 roubles par mois jusqu'à votre mort, puissiez-vous vivre jusqu'à 120 ans. Joseph aura des funérailles de première classe, 6 chevaux pareils à 6 lions, 2 corbillards avec des couronnes, et le chœur de la synagogue de Brody. Un enterrement pareil, Odessa n'en avait encore jamais vu, et le monde n'en enverra pas un deuxième.
Pourquoi les contes d'Odessa, de Babel, Luba Jurgensen est une des références littéraires sur lesquelles vous vous retrouvez avec Léonid Gurchevitch, et pourquoi est-ce qu'Odessa est aussi un point presque de rendez-vous de cette grande conversation?
Parce que les juifs un peu folklorisés de Babel sont des personnages mythiques auxquels on pense. Nous venons tous un peu d'Odessa, quelque part. Et c'est aussi une ville où on a un parler tout à fait singulier. D'ailleurs, il est un petit peu décrit, où quand vous demandez votre chemin à quelqu'un, il va vous demander d'où vous venez, et puis il va vous dire « Ah mais non, n'allez pas là-bas, allez plutôt... plutôt, je ne sais pas, dans cette boutique-là que tient mon frère. » Et il va vous raconter ce que son frère vend, et etc. Et vous vous retrouvez dans... C'est une ville de 1000 récits qui se
c'est
crase.
C'est l'inverse du monolinguisme autoritaire,
on va dire. Oui, absolument. C'est une ville où les récits s'enroulent les uns autour des autres, en différentes langues, et une sorte de plurilinguisme absolument consubstantiel à la ville.
Est-ce que la littérature, puisqu'on est ici au Book Club de France Culture, est une ressource opérante lorsqu'on converse avec un ami de longue date, ou en tout cas un auteur qu'on fréquente de longue date, lorsqu'on essaye de se débrouiller avec des situations extraordinairement difficiles à penser que nous propose le monde ou les dirigeants autoritaires du monde? Est-ce que c'est un bon endroit où aller, Luba Jurgensen? Pas en refuge, hein, mais pour être actif dans la pensée.
Certainement, et là on peut encore revenir vers Odessa, parce que lorsque les juifs d'Odessa commencent à aller vers d'autres villes, et notamment vers Moscou et Leningrad, que la littérature russe accueille justement un plurilinguisme différent de ceux qu'elle pouvait avoir auparavant. C'est-à-dire qu'il y a la langue d'Odessa est accueilli dans la littérature russe. Donc on assiste à une sorte de dialogisme qui vient d'Odessa. Donc la littérature, oui, sûrement. Mais pour Léonide, c'est aussi la musique. Mmh. Et lorsqu'il traverse l'Ukraine, c'est aussi un voyage musical. Parce que dans chaque ville où il met les pieds, le premier soir, il va à un concert.
D'ailleurs, comme il est beaucoup question des langues qui sont parlées, il a aussi de très beaux passages dans cette conversation où il réfléchit à des structures de la musique occidentale, à des résolutions, à des tonalités, à comment est-ce que ça le compose presque autant que la langue qu'il parle. Et c'était assez beau de voir aussi, pour continuer de décrire cet homme et vous-même, Luba Jorgensen, comme des espèces de bons hommes et de bonnes femmes très très stratifiées, toute l'histoire de la musique qui pétrit cet homme. Là, le compose autant que la langue qui parle.
Oui.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on vous retrouve, Nicole Vulzer, à cette heure-ci, comme chaque semaine, pour parler langue, mais surtout pour parler économie. Aujourd'hui, vous nous parlez des séances de signature et de tout ce qui constitue ce qu'on peut appeler, ou ce que vous appelez, le service après-vente des écrivains.
Dans la librairie Ombre Blanche à Toulouse, l'organisation des rencontres avec des auteurs, suivies par des signatures de leur dernier ouvrage, est une activité à part entière, quasiment staccanoviste. Rien que cette semaine, 6 rencontres sont prévues qui permettront au public d'écouter Jean-Jacques Rosa, Éric Michaud, Denis Eckert ou encore Cécile Vessier. Pour le responsable du rayon littérature, Nicolas Vive, je cite « La librairie est un lieu de vie. Tous les jours, des auteurs parlent d'un sujet différent. Nous sommes en fait une université gratuite », dit-il. Un projet humaniste en quelque sorte, mais qui permet aussi de vendre des piles de livres. Nicolas Vive est sûr de faire salle comble et sort une bonne centaine de chaises quand il reçoit Laure Murat, Mathias Sénard ou encore Maëlys de Kerangal. Même s'il note, comme un signe des temps, que les auteurs de sciences humaines sont désormais parfois plus prisés que ceux de littérature. La discussion avec l'auteur dure en général 3 quarts d'heure ou 1 heure avant de procéder aux signatures. Pour Pascal Thuot, directeur général d'une autre très grande librairie, 1000 pages à Vincennes, cet exercice fait partie intégrante du travail de promotion. Son programme de rencontres, à raison de 4 à 6 par mois, lui permet de fidéliser un public, mieux le connaître aussi, puisqu'il faut s'inscrire. Il ne reçoit jamais moins de 50 personnes et dans le meilleur des cas, on accueille jusqu'à 350. C'est énorme. Il est très sollicité par les éditeurs qui voient dans ces rencontres un moyen simple et efficace de faire connaître leurs auteurs et de vendre. Pour lui, c'est aussi un moyen d'inscrire plus fortement sa librairie dans l'ADN culturel de la ville. Parfois, dans certaines librairies, on accueille 2 auteurs d'un coup, comme ce soir, à la librairie du cinéma du Panthéon à Paris, où Philippe Reinhardt et Frédéric Sodger échangeront sur leurs ouvrages respectifs sur le cinéma.
Et vous vous demandez, Nicole Vulzer, si ces tournées chez les libraires ne virent pas parfois à des parcours de VRP.
Oui Marie, cela ressemble parfois à du marketing pur et dur. J'ai suivi à Bergerac, puis à Bordeaux, une toute petite partie de la tournée de Jean-Baptiste Andréa, le lauréat du prix Goncourt de 2023. Pendant des mois, sa vie s'est figée et il a effectué un tour de France des librairies. Chaque jour un train et 1 heure de débat avec des questions du public qui, il faut le dire, se ressemblent souvent de ville en ville. Il répondait avec ce qu'il fallait d'esprit et d'humour pour conquérir l'assistance avant de dédicacer une pile de livres, puis d'aller dîner avec un représentant de sa maison d'édition, l'Iconoclaste, et le libraire. Exactement comme un représentant de commerce. Il dormait dans un petit hôtel avant d'enchaîner le même scénario le lendemain. Rares sont les auteurs qui se plient à cette discipline de faire sans sourciller. D'ailleurs, certains, comme Jean Echenoz, refusent catégoriquement de se conformer à ce genre d'exercice. Ils trouvent que c'est trop de temps perdu, trop d'heures et de jours à ne pas écrire ou à renoncer à leurs amis ou leur famille.
Qui finance ces opérations de promotion, Nicole ?
En général, les frais, le transport, l'hôtel et le restaurant sont partagés à 50-50 entre l'éditeur et le libraire. L'éditeur en profite pour faire le point avec les libraires, promouvoir son poulain, mais aussi ses différentes collections. Pascal Chaud, à Vincennes, précise que pour lui, les rencontres, je cite, « ce n'est pas là où on gagne de l'argent. Entre le budget de communication, les interprètes pour les auteurs non francophones, les heures supplémentaires des salariés ou le petit buffet organisé pour les auteurs et leurs accompagnants, c'est souvent une opération blanche. » Dans les librairies, les auteurs, eux, ne sont jamais payés pour leurs prestations. Sur le papier, les signatures et les dédicaces devraient être rémunérées dans le cadre des salons ou des manifestations littéraires. Dans les faits, c'est très rarement vrai. Grâce aux aides du Centre National du Livre, le CNL, et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le festival Un aller-retour dans le noir est l'un des rares à payer les auteurs selon les recommandations tarifaires du CNL, soit 154 euros bruts la demi-journée et 255 euros bruts la journée pour les signatures. Mais dans les manifestations plus importantes, qui n'ont pas de budget suffisant et accueillent des légions d'auteurs, comme Quai du Polar à Lyon, Étonnant Voyageur à Saint-Malo ou la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, ils ne touchent rien. Ils viennent quand même et savent qu'ils seront en revanche indemnisés pour les tables rondes, les ateliers ou les lectures performances. D'ailleurs, le CNL précise, je cite, « Les auteurs peuvent être rémunérés pour des signatures ou des dédicaces, mais en général, ils ne le sont pas. L'idée sous-jacente, discutable bien sûr, étant que ces moments relèvent de la promotion du livre, entraînant des ventes et non, je cite toujours, d'un véritable travail. »
Intéressant. Économie du livre à écouter, à relire sur franceculture.fr. Dans le book club à cette heure-ci où on joue au grand jeu des pages musicales, vous nous disiez à l'instant, Luba Jorgensen, combien la musique était importante dans la vie de Léonid Gurchovitch. On a décidé de terminer ce book club avec un extrait de son livre Apologie de la fuite, paru en 2004 chez Verdier, que vous avez traduit. Nelly dansait volontiers avec ses élèves, mais c'était désormais du passé. Le chœur chanta « Gloire », puis le Rossignol de Tchaïkovski. Piotr Ilitch Touk suivait une règle d'or. On commençait par de la musique patriotique, suivie par de la musique lyrique, toujours choisie parmi les classiques russes, après quoi on entonnait une chanson populaire genre Kalinka. La prudence dictait d'en passer par là avant de chanter les Mishka Mishka et Istanbul et Constantinople. Lorsque Nelly entendit les mots « Sur ma tombe, vous planterez de jolies petites fleurs rouges », elle quitta la salle. Elle cherchait la solitude, un coin sombre où personne ne la verrait. Elle s'assit au bout d'un banc, dépassant d'une barricade qui se dressait jusqu'au plafond, hérissée de pieds de chaise et de tabourets, et cachant la lumière déjà terne du couloir. De l'autre côté du mur, secouée par le piétinement rythmé d'une multitude de pieds, on entendait déjà la danse populaire. D'avoir été avec nous et d'avoir porté en quelque sorte la voix de Léonid Gurchovitch pour parler de ce texte. On ne sait pas comment cela finira. Conversation sur l'Ukraine, paru aux éditions Verdier.
Merci.
Au son, c'était Dalia A. Aujourd'hui, à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Cyril Marchand, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Louise Hoth et Alexandra Laïbegovic qui animent cette grande conversation. Nous aussi, on aime ça, sur le compte Instagram du Book Club.